France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un chapeau. Ce que je suis en train de faire là, commencer à causer avant que ça commence vraiment, dire un peu ce qui nous attend, mais pas trop, pour vous donner envie d'écouter. Dans la presse écrite comme en radio, on appelle cela un chapeau. D'où vient cette coquetterie orthographique qui l'affuble d'un O accent circonflexe et non du EAU terminant le couvre-chef, ça je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que quelques heures avant de prendre le micro, je cherche mon chapeau. Mais aujourd'hui c'est facile. Puisque nous allons parler d'Anne avec Michel Pastoureau, puisque nous allons converser avec ce grand historien du renversement des systèmes symboliques qui dit l'ambivalence de nos valeurs. Alors ce chapeau ne peut être qu'un bonnet d'Anne qui, du roi Midas au cancre de la Troisième République, en passant par le roi des Sceaux et la nef des Fous, affuble ceux qui font les ânes. Sont-ils bêtes ou sont-ils humbles? Les hommes mépriserait-il dans les animaux ceux qui les servent trop bien et à trop peu de frais? C'est Buffon qui parle. Ah Buffon, mon ami Buffon, écrit Michel Pastoureau, notre invité spécial dans cette émission, avant d'être rejoint par notre sociétaire du jour, Pierre Saint-Garavelou. On va en parler, car en feuilletant cette Anne, qui est aussi un beau livre d'images, on comprend que la question qu'il pose est aussi l'énigme morale de la connaissance. Qu'est-ce que savoir? Comment parler de ce que l'on croit avoir compris? Et que répondre à ceux qui disent que ce sont des âneries?
Donne-le-nous. Il nous faut.
Les enfants, c'est impossible.
Balthazar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
Au hasard, Balthazar de Robert Bresson, 1966, vous avez reconnu évidemment. Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je l'ai dit, notre grand historien des imaginaires médiévaux que vous saisissez à travers l'héraldique, les couleurs, le bestiaire. On va en parler. Votre thèse de l'école des chartes était en 1972, portait sur le bestiaire héraldique au Moyen Âge. À ce moment-là, c'était vraiment, vraiment pas la mode. Depuis, évidemment, l'animal n'est plus ce qu'il était. Vous avez publié, entre-temps, bien des livres. Dans Dernière visite chez le roi Arthur, paru en 2023, vous faites l'historien de votre désir d'aller vers le public. Et parmi votre œuvre abondante, il y a deux séries. Il y en a une qui a commencé en 2000 avec Bleu. Ce sont les couleurs. Et il y en a une qui a commencé en 2018 avec les animaux. C'était le premier, c'était le loup. Et le cinquième, paru au Seuil cette année, l'âne. Vous allez faire toutes les couleurs, mais pas tous les animaux. Là, c'est vraiment ceux que vous préférez.
Oui, et ceux qui laissent des traces documentaires que l'historien peut exploiter. Donc, il y a des animaux qui sont discrets dans l'histoire des sociétés européennes. Et d'autres, pas du tout. Et l'âne, lui, n'est pas discret. Les documents sont abondants et même surabondants. Dès l'Antiquité lointaine, on a des textes, on a des images, on a des restes archéozoologiques, des faits de langue et de lexique. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour
la,
être... expliquer l'histoire de l'âne du point de vue social et culturel.
Avant, il y a eu le corbeau, le loup, la baleine, le taureau. Vous n'allez pas tout de suite vers les rois, hein, vers les ours, et que vous en avez beaucoup parlé, évidemment, l'ours, le cochon. Non, non, là, c'est plutôt les animaux humbles.
Oui.
Vous l'aimez bien, cette âne.
Ils ont toute ma sympathie, bien sûr. Ils posent des problèmes compliqués. Et puis, il y a des phénomènes de revalorisation. C'est exactement le cas pour l'âne, mais c'est pareil pour le corbeau ou pour le loup, qui est aujourd'hui la vedette du livre pour enfants et un animal que les écologistes défendent avec acharnement contre les chasseurs et parfois contre les éleveurs.
Alors, évidemment, vous l'avez suggéré, tout a changé dans notre rapport avec les animaux, en société, mais aussi dans la connaissance. Et c'est important de rappeler que vous êtes un historien de l'héraldique. Donc au départ, ce que vous avez fait peut-être toute votre vie, en somme, Michel Pastoureau, c'est prendre des sujets un peu délaissés, un peu folklorisés, et les ramener dans l'histoire savante. Vous êtes archiviste paléographe, vous avez été directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et vous preniez de ces sujets un peu délaissés, un peu dédaignés par les savants, pour les mettre en pleine lumière.
Oui, c'est ce qui m'intéresse. Et ça a commencé très tôt, puisque mon sujet de thèse, le bestiaire héraldique au Moyen-Âge, j'ai eu du mal à l'imposer. Ça semblait pas sérieux, ridicule. À l'école des Chartres, mes maîtres qui m'aimaient bien m'ont dit « Mais vous allez faire rire de vous et faire rire de nous. » Oui. Donc j'ai dû me battre pour imposer ce sujet de thèse, qui était pour moi un laboratoire, puisque il m'a ouvert de trois directions. L'histoire des armoiries, des emblèmes d'un côté, l'histoire des animaux de l'autre, et l'histoire des couleurs en troisième lieu. Je n'ai jamais quitté, au fond, ces trois terrains d'enquête.
Et puis je parlais effectivement de renversement des systèmes symboliques. C'est souvent l'intrigue qui anime vos livres, Michel Pastoureau. Je pense à ce très beau livre sur les rayures, l'étoffe du diable, l'ours, évidemment. C'est-à-dire comment, d'une certaine manière, alors souvent ça se termine en enfance, si j'ose dire, avec un animal charmant, mais comment, au fond, ces valeurs se retournent souvent.
Oui, les valeurs se retournent, et c'est ce qui m'a le plus frappé dans mon travail d'historien, ce qui m'a peut-être le plus intéressé. Il y a des périodes, pourrait dire, immobiles, et puis parfois soudainement, les systèmes de valeurs s'inversent, ou les modes de sensibilité, plus lentement pour les modes de sensibilité, ce qui fait le travail de l'historien et tout l'intérêt de notre recherche. Et il faut rester lucide. Tout ce que nous croyons, tout ce que nous savons aujourd'hui sera complété, nuancé, peut-être critiqué par nos successeurs dans quelques décennies. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de raison que cela change, y compris les savoirs oui. Scientifiques.
Alors l'âne, justement, venons-en à cette âne qui vous est chère, à l'Antiquité, puisque votre livre qui vient de paraître, L'âne, une histoire culturelle, pose le problème d'abord effectivement préhistorique, le rapport avec la domestication entre l'âne, l'onagre, l'âne sauvage. Puis très vite, on est dans l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, déjà un renversement de valeurs. Un âne qui peut être un peu célébré dans la mythologie et qui très vite est déconsidéré ensuite.
Oui, la faute en revient au cheval qui lui est domestiqué plus récemment que l'âne. L'âne était plutôt bien vu, on appréciait les services qu'il rendait pendant au moins 2 millénaires, et puis quand le cheval devient domestique et rend lui aussi un certain nombre de services, l'âne apparaît comme un cheval du pauvre et ne cesse de se dévaloriser. Ça commence assez tôt, ça continue dans la Grèce antique, puis surtout dans la Rome antique et le Moyen-Âge chrétien. On n'a jamais cessé de comparer les deux animaux.
Oui.
Et l'âne a toujours été perdant dans cette comparaison.
Et c'est ça, évidemment, qui vous anime et qui vous indigne. L'âne n'est pas un cheval dégradé, n'est pas un cheval au rabais, écrivait Buffon. Mais pour l'instant, effectivement, en particulier dans les représentations, parlons d'images, il y a beaucoup de mosaïques au début de votre livre, des mosaïques romaines.
Oui, quand on étudie la peinture romaine, il ne faut pas oublier la mosaïque qui nous est parvenue en très grand nombre, surtout pour les parties africaines de l'Empire romain, et ces mosaïques nous montrent assez souvent des scènes de la vie quotidienne, alors que la peinture murale en montre moins, sauf peut-être un peu à Pompéi et dans les cités vésuviennes. Mais en tout cas, nous avons une iconographie abondante, et pour la Grèce et pour la Rome antique, et on voit beaucoup d'ânes, et l'historien peut en tirer un certain nombre de choses. Et en général, c'est un âne qui travaille, qui porte, qui tire, qui pousse, qui oui. foule. Mais quelquefois, il y a des scènes plus touchantes, comme une mosaïque byzantine.
Oui, du 5e siècle.
Hein. Voilà, où on voit une sorte de regard affectueux qu'un enfant semble porter sur un âne qu'il est en train de nourrir. C'est un peu exceptionnel dans l'iconographie antique.
Et son regard est un peu mélancolique, et vous dites, en commentant cette image, que peut-être illustre-t-elle justement une scène, mais on n'a pas identifié laquelle, du grand roman antique de l'âne, l'âne d'or d'Apulée. Écoutez.
Je vais, dans cette prose milésienne, te conter toute une série d'histoires variées et flatter ton oreille bienveillante d'un murmure caressant. Pourvu que tu daignes jeter les yeux sur ce papyrus égyptien que la pointe d'un roseau du Nil a couvert d'écriture, et tu t'émerveilleras en voyant des êtres humains changer de nature et de condition pour prendre une autre forme, puis, par un mouvement inverse, se transformer à nouveau en eux-mêmes. Apulée, l'âne d'or.
Avec Apulée, on est toujours en Afrique du Nord, d'ailleurs, berbère,
oui,
romanisé.
C'est un berbère qui a beaucoup voyagé, qui a écrit un latin assez tourmenté, tantôt précieux, tantôt familier. Et l'âne d'or est un roman assez difficile, mais c'est le seul roman antique qui nous soit parvenu complet, et qui a fasciné un certain nombre de littérateurs à l'époque moderne, notamment Nerval, notamment Flaubert, les romantiques et post-romantiques, mais les naturalistes aussi ont aimé ce texte qui part un peu dans tous les sens, cette histoire d'un humain qui est changé en âne, et qui, pour retrouver son aspect humain, doit manger des roses.
Oui, et c'est, on va y revenir, l'âne, c'est un des rares animaux, avec le taureau, avec l'ours, avec le cochon, dont les hommes aiment à se travestir. Hein. On fait l'âne.
Et voilà, ça, c'est... beaucoup d'histoires de métamorphose avec l'âne, soit voulues, soit subies, ou bien sinon des métamorphoses, des déguisements. Il y en a à toute époque et beaucoup d'histoires. On en parlera peut-être à propos de Shakespeare.
Et puis évidemment, l'histoire chrétienne, d'une certaine manière, elle procède aussi de cette littérature romaine des métamorphoses entre le bœuf et l'âne gris, crèche le Christ, depuis quand?
Alors,
pas depuis les évangiles, en tout cas.
Non, les évangiles ne parlent pas de la présence d'animaux. Ils soulignent que le Christ est né dans une étable. Mais ce sont les images, je pense, qui ont placé des animaux pour faire attribut, en quelque sorte, attribut de lieu. S'il y a âne et s'il y a bœuf, c'est donc qu'on est dans un lieu qui a à voir avec l'étable. Et
ensuite, c'est-à-dire une mangeoire, hein, au
départ. Mangeoire, on discute beaucoup sur le vocabulaire. Évidemment, la Bible, c'est un texte mouvant. Hein, au fil des traductions et des versions, le lexique change et certains mots se prêtent à des glosses infinies, oui. Notamment le mot qui signifie crèche ou mangeoire. Mais les évangiles apocryphes ont entériné cette présence de l'âne et du bœuf, ce qui nous a valu une iconographie surabondante, avec des débats à l'époque médiévale même pour savoir quel était l'animal le plus proche de l'enfant. Est-ce que c'était l'âne ou est-ce que c'était le bœuf, lequel le réchauffait de son souffle au plus près. Bref, il y a un âne du christianisme qui est plutôt positif et qui va s'opposer à l'âne des Bessières et des encyclopédies, qui lui est totalement négatif.
Oui, parce qu'il y a l'âne de la crèche, vous le montrez dans votre livre en commentant l'évangélière d'Averbode, qui est du XIIe siècle. Et bien, il y a l'âne, évidemment, de l'entrée du Christ à Jérusalem.
Voilà. Et ces deux images qui mettent en scène un âne et puis d'autres qui mettent en scène des animaux posent la question des rapports entre Jésus ou le Christ et les animaux. Et plus généralement, est-ce que le Christ est venu sur Terre pour sauver aussi les animaux ou non? On en débat énormément à l'Université de Paris au XIIIe siècle. Et l'argument des partisans des animaux enfants de Dieu, c'est que Jésus est né dans une étable. Ça, c'est un argument massu, en quelque sorte. Et puis, alors, l'entrée du Christ à Jérusalem, montée sur une ânesse, ça, c'est expliqué dans les évangiles canoniques. Le Christ entre à Jérusalem pour subir sa passion sur une ânesse blanche, nous dit la tradition.
Ça, c'est dans Matthieu.
La foule place des vêtements ou des branches de palmier au sol sur son passage. C'est une image très souvent représentée, non seulement dans la miniature, mais dans les vitraux. Le livre reproduit une très belle verrière de la cathédrale de Chartres, où on voit une ânesse magnifique,
très blanche,
toute blanche.
Très, très blanche, oui.
On est vers 1215, à peu près.
Et avec beaucoup de vers, vous avez été l'historien du vers, donc on voit bien aussi qu'il y a là un ferment d'instabilité.
Oui, tout à fait. Le vitrail est une source iconographique assez difficile, parce que peu de vitraux sont encore dans leur état d'origine, en place à l'emplacement d'origine. Donc il y a un travail d'érudition compliqué à faire, mais c'est quand même quelque chose qui nous apporte beaucoup d'informations, notamment sur la présence des images dans les églises.
Et cette instabilité symbolique, elle est propre aussi au christianisme, qui est une religion du renversement, où effectivement le Christ se fait gloire de s'humilier, en somme. Et tout cela, ça va évidemment inspirer tous les rituels, toutes les fêtes autour de l'âne. Écoutez ce qu'en disait Bernard Brousse sur France Culture en 2006.
Cette fête de l'âne est une fête du renversement, et donc les officiels de l'Église sont chassés par les plus jeunes, par les novices. Et c'est eux qui prennent le pouvoir, et c'est le pouvoir donc de la déraison.
Cette manière, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, et justement l'archevêque, je pense, a essayé de bien maîtriser les choses, que ça reste surtout à l'extérieur de l'Église et pas trop à l'intérieur. Justement, cette mésolade dont on parlait tout à l'heure est très bien structurée. En vérité, l'âne s'arrête à la porte de la cathédrale. Les fêtes se passent autour. Mais c'est vrai qu'on a bien ce fait de faire des choses à l'envers à ce moment-là, puisque logiquement, le jour de la circoncision, c'est la fête des sous-diacres. Et comme on met le mot à l'envers, c'est bien les diacres sous. Ça donne une idée de ce qui peut arriver.
Et alors, donc, pourquoi l'âne? L'âne est un animal important, c'est un animal symbolique.
Et bien justement, c'est l'humble, au sens vrai du terme. C'est lui qui porte toujours les choses. C'est l'animal humilié et humble de ce point de vue-là. Et là, comment on fait les choses à l'envers? Au lieu d'honorer le lion, bien là, on honore l'animal le plus faible, enfin, le plus simple. L'âne, qui est quand même très présent dans l'histoire du Christ.
Oui. C'est le jour christique,
puisqu'il était avec le bœuf et l'âne, si j'ose dire, il commence là.
C'est sur un âne que le Christ entre dans...
Voilà. Puis la fuite en Égypte, oui. Et le jour des rameaux, tout à fait. Donc c'est pour ça que l'âne, finalement, est porteur du Christ. Mais c'est lui qui porte, il est en dessous. Enfin, pour une fois, il est au-dessus.
Et puis l'âne, c'est le cheval du pauvre, d'une certaine
exactement.
Façon.
Oui. Et c'est la paix aussi. Contrairement au cheval, qui est plutôt l'animal de la guerre. Uh-huh. Donc il y a un aspect assez pacifique aussi de ceux qui travaillent tout le temps, qui font le labeur et qui, là, pour une fois, sont mis en premier lieu, en devant.
Bah oui, on comprend pourquoi vous aimez l'âne, Michel Pastoureau. Il fait la paix, il est travailleur.
Il est travailleur, il souffre, comme le Christ souffre. Donc il y a une espèce de cousinage implicite, bien sûr, et des rituels d'inversion dans la fête de l'âne, qui a donné lieu à pas mal de dérives d'interprétation, mais elle est bien attestée quand même fin 12e, début 13e siècle, dans certains diocèses. Le bas clergé prend la place du haut clergé, un âne est souvent conduit jusqu'à l'autel, ça a laissé un certain nombre de traditions plus ou moins folkloriques. Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, en parle assez longuement au début du roman. Ça commence par une fête de l'âne, un charivari, une fête populaire. On a gardé une partie des fiches que toute une équipe de jeunes historiens lui a fait pour préparer son roman autour de Hugo, de Nerval, de Gautier. Il y a toute une équipe de jeunes chartistes et apparentés, si je puis dire, qui fait des fiches.
Et puis on pense aussi bien plus tard à son grand poème allégorique « L'âne » à Victor Hugo, hein, qui justement pose la question de la connaissance. C'est-à-dire que l'âne, c'est celui qui sait dire le ridicule au fond à la raison instituée, à la raison savante. Et là, on arrive à notre bonnet d'âne, Michel Pastoureau. On arrive à ce moment dans la culture médiévale où l'âne sot, bête mais gentil, devient, alors là, l'attribut, en tout cas c'est au moins ses longues oreilles, du fou. Donc là, c'est la question de la déraison, plus inquiétante.
C'est la déraison. Ce bonnet d'âne vient d'assez loin. Il est attesté déjà dans l'Antiquité romaine pour signifier la sottise ou l'incapacité d'apprendre. On le retrouve en milieu monastique au Moyen-Âge chez les jeunes moines qui n'arrivent pas à apprendre à lire dans le psautier, par exemple. Et puis à la fin du Moyen-Âge, arguant que c'est le même mot latin qui désigne et la sottise et la folie, stultitia, ça devient un attribut de la déraison, un attribut des fous à un titre ou à un autre, et on en a une iconographie relativement abondante.
Notamment dans la Nef des Fous.
Dans la Nef des Fous, ce texte étonnant de Sébastien Brandt, publié à Bâle vers 1494, si je me souviens bien, qui dénonce 112 folies humaines, c'est-à-dire 112 vices, au fond, de manière crescendo. On commence par les moins graves et on finit par le blasphème et des choses épouvantables. Et une partie des images dans les premières éditions sont dues à Durer jeune. Elles sont spectaculaires, elles ont souvent été imitées. Et presque toujours, les fous sont coiffés de ce bonnet avec des grandes oreilles d'âne.
Et on pense aussi, autre rituel d'inversion politique, au roman de Fauvel, qui est un roman parodique politique du temps de Philippe le Bel. Fauvel, ça veut dire qu'il est roux, simplement. Et au temps de Philippe le Bel, il y a aussi un autre très très fameux philosophe. Ça tombe bien, il y a souvent un philosophe qui vient nous envoyer des cartes postales. C'est Mathieu Pot-Bonneville, directeur du département culture et création du Centre Beaubourg. On va l'écouter.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, il n'y a pas d'âne, je vous dis. Pas la queue d'un. Un homme, oui, bien des siècles plus tôt. Un chien, ailleurs. Une ânesse, par la suite. Mais d'âne immobile jusqu'à s'effondrer droit comme un fil à plomb. D'âne, dans un équilibre si pur qu'on le prendrait pour un sage s'il n'était planté là pour servir justement de contre-épreuve à la sagesse, non. On n'en trouve pas trace dans les écrits de Jean Buridan. L'âne de Buridan. Voyez comme l'histoire peut se faire le bûcher des vanités intellectuelles. Vous êtes l'une des autorités philosophiques majeures du XIVe siècle. Vos analyses sur la logique des signes rivalisent avec celles de Guillaume d'Ockham, mais dans la mémoire collective, vous voilà pour l'éternité à la longe d'un âne qui n'est même pas là. Comment se forment les images? Par concrétion et glissement dans votre cas. Reprenons. Aristote, dont vous étiez votre vie durant un relecteur inlassable, imagine dans le traité du ciel un homme commis à choisir entre la nourriture et la boisson. Sous votre plume, dans votre commentaire du traité, l'homme devient un chien, qui, ne disposant d'aucun surcroît de liberté vis-à-vis des déterminations qui le meuvent, se trouverait paralysé si ses nécessités s'équilibraient parfaitement entre elles. Il faudra plus de 2 siècles pour qu'arrive le picotin et l'écuelle. Pour que d'autres plumes changent votre chien en ânesse, chez Spinoza, dont ce n'est pas, hélas, la seule trace de misogynie, puis en âne, chez Leibniz. Dans le long débat philosophique sur ce qu'on appelle la liberté d'indifférence, l'âne qu'on vous attribue agrège ainsi plusieurs avatars successifs. Et, brave bête, il vient prendre sur lui une autre figure de la bête, non la gueule rouge et écumante des pulsions, mais la bête bête, celle à qui manquerait l'étincelle que nous sommes, puisque c'est faute de cette volonté censée permettre aux humains de résister à leurs désirs que l'âne de Buridan est impuissant à consentir à ses besoins. Comment se forment les images ? La tradition rapporte un autre élément encore. Ce serait lors d'un cours, par vous prononcé en l'université de Paris, que l'âne serait venu se substituer au chien. Cet âne, Buridan, il vous aurait rattrapé à l'oral, ce qui témoigne de deux choses quant à l'art d'enseigner. D'une part, une image n'est pas ce qu'un professeur convoque lorsque, pleinement maître de ses idées, il cherche à leur donner un tour plus attrayant. Une image, c'est ce qui le convoque, lui, le professeur. Ce qui advient par effraction comme un bonheur et un recours lorsqu'au moment de l'expliquer, l'idée s'est révélée rétive et difficile, c'est-à-dire vraie. D'autre part, cette fois du côté des élèves, une image n'est pas une ébauche provisoire, vouée à s'effacer sitôt franchi le seuil du concept. C'est une parenthèse à l'épreuve du temps. Quand celui-ci aura érodé alentour le souvenir des cours, c'est le seul fragment parfois qu'on aura retenu et par où vient tout le reste. Si, comme le soutient Roland Barthes, qui s'y connaissait en cours, l'essentiel est dans l'indirect. Cher Buridan, n'en veuillez pas à vos étudiants et soyez doux avec votre âne. Depuis le XIVe siècle, il porte sur son dos tout votre enseignement. Sa longue descendance de Melville à Beckett, de Bartleby le scribe qui se laisse mourir en préférant ne pas, à Vladimir et Estragon dans la longue patience de Godot, tous font à votre mémoire une haie d'honneur, idiote, souveraine, immobile.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Alors je ne sais pas à qui il s'adressait, ça commence par « Cher Patrick », ensuite... parle de Buridan, Patrick Buridan peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est intéressant pour nous qui sommes des professeurs. Michel Pastoureau, on se souviendra de nous peut-être, oui, au hasard d'une digression.
Nous deviendrons peut-être des personnages de légende comme Buridan, hein, qui est entouré d'histoires de toutes sortes, à commencer par les scandales liés aux belles filles de Philippe le Bel, oui, la tour de Nesle. Buridan aurait été du nombre des amants des deux sœurs de Bourgogne.
Et mis dans un sac, dit François Villon, jeté dans la Seine. Oui.
Jeté en un sac en Seine. Ça continue par la suite. Donc, c'est le propre à la fois des maîtres importants, des recteurs aussi. Il était recteur de l'Université de Paris à plusieurs reprises, me semble-t-il, Buridan. Donc, il avait pas mal d'ennemis. Puis, dans la querelle des universaux, il représente un courant et le courant adverse tend à le ridiculiser. Bref, c'est un personnage, en effet, qui devient légendaire assez tôt.
Oui, et qui devient légendaire en étant assimilé à un animal qui, lui, on l'a un peu oublié parce que on en a maintenant une vision enfantine, est lié à la luxure aussi, est lié au sexe.
Voilà. Alors
donc
là,
c'est le rapport entre le sexe et le savoir.
Voilà. C'est déjà là dans l'Antiquité, dans l'Âne d'Or, par exemple, il y a des épisodes, en effet, assez sexuels, pourrait-on dire, et puis ça va en s'accentuant au fil du temps, notamment au début de l'époque moderne, l'âne devient un animal fortement sexuel, en compagnie de quelques autres, bien sûr, et c'est surtout l'âne mâle qui est concerné. Il suffit de regarder le sexe d'un âne véritable, oui, pour évidemment développer cet imaginaire-là. Et ça ne cesse vraiment qu'au XIXe siècle, où on parle un peu moins de la sexualité des ânes. Mais beaucoup d'auteurs, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, soulignent que l'âne mâle est beaucoup plus attiré par la jument que par l'ânesse, ce qui est un signe de débauche et d'adultère.
Ça, il y a quelqu'un qui l'avait très bien compris, c'était Alain Bachung.
Un âne plane autour des tours de Notre-Dame. Un âne clame son existence avant qu'elle ne se fasse. Jette du riz sur le parvis, blanchit les gargouilles. Jette un sort à nos chères anatomies. âne se pavane au bras d'une courtisane, aux fourmis médusées disent-ils des pensées se réclament de l'homme qu'a vu l'âne. Jette du riz sur le pavé, âne oublie nos bruits, jette un rubis à nos faces désincarnées. Que m'enseigne encore ce néant, rien qui me fasse réfléchir au-delà du halo. On se noie dans des murmures, on se pend au bout du fil, et du reste on en a cure. Un âne plane tourne autour de nid, décidément indécis. Il se condamne à des soupers. De lui émanent des airs célestes. Et quand vient le sorbet, un âne se réclame. Du riz sur le parvis, blanchis les gargouilles, jette au panier la corbeille et l'osier. Jette du riz, jette du riz. Que m'enseigne encore ce néant, rien qui me fasse réfléchir. Au-delà des halos, on se noie dans des murmures, on se pend au bout du fil, et du reste on en a plus. Jette du riz, jette du riz,
Un âne plane, Alain Bashung, 1994. Il faudrait vraiment la science de Michel Pastoureau pour comprendre toutes les paroles d'Alain Bashung, parce que l'âne, c'est aussi un animal littéraire, hein, d'Apuley à Stevenson, en passant par Nerval et Hugo, mais aussi effectivement les conteurs et les fabulistes. Hein, c'est l'animal de la fable, des hôtes de La Fontaine.
Une des vedettes de la fable, hein, la fable antique ou la fable moderne. Je crois qu'après le lion, le renard et peut-être le chien, ça doit être le quatrième ou cinquième animal par ordre de fréquence. Chez La Fontaine, il est présent dans plus d'une vingtaine de fables. Et le portrait qu'en dresse le fabuliste n'est pas très différent de celui des bestiaires du Moyen-Âge. L'âne est stupide, l'âne est paresseux, l'âne est lubrique, l'âne est vaniteux. C'est un portrait un peu désolant.
Oui, désolant de régularité. Mais d'ailleurs, le bestiaire des fables, en particulier de La Fontaine, et n'est pas si riche que ça, finalement.
Non, il est complètement archétypal. D'ailleurs, La Fontaine n'est pas du tout un homme des prés et des bois. Hein. C'est un homme de bibliothèque et il écrit la même chose que ses prédécesseurs, en quelque sorte. Donc l'âne ne bénéficie pas d'un regain positif, en quelque sorte. Il va falloir attendre encore quelques décennies.
Et dans les contes, parce que évidemment on pense à Peau d'âne, votre livre se termine presque avec le film de Jacques Demy, mais il est au milieu du guet, en train d'étudier ben justement le conte de Charles Perrault, qui est quand même un conte cruel.
C'est un conte cruel, construit autour du thème de l'inceste, en quelque sorte. Un homme qui a perdu sa femme, laquelle lui a fait jurer, s'il se remariait, de n'épouser qu'une femme qui était au moins aussi belle qu'elle. Et il n'y a qu'une femme qui est aussi belle que cette femme décédée, c'est sa fille. Donc ce père veut épouser sa fille, elle cherche à échapper à ce désir hors norme. Elle lui demande des robes de plus en plus merveilleuses, ça n'arrête pas le désir du père. Donc elle lui demande ce qu'il possède de plus précieux, c'est-à-dire un âne qui chaque matin défèque des pièces d'or.
Oui.
C'est la réunion des contraires, au fond, l'animal le plus vil qui procure un bien extrêmement précieux. Et l'homme sacrifie son âne, donne la peau à sa fille, qui s'enfuit bien sûr, et l'histoire va continuer. Il y a plusieurs versions, le conte vient de loin, et a été repris à la fois au théâtre et au cinéma, jusqu'à Jacques Demy en effet.
Alors dans la fable, c'est souvent l'âne qui va à sa propre perte, hein, c'est pas lui qu'on sacrifie, c'est lui qui est sacrifié par son peu de discernement. C'est le cas évidemment dans les fables de La Fontaine. Écoutons Michel Duchaussois nous dire, c'était en 2001, l'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel.
Un ânier, son sceptre à la main, menait en empereur romain deux coursiers à longues oreilles. L'un, d'éponge chargée, marchait comme un courrier. L'autre, se faisant prayer, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par mont, par veau et par chemin, au gué d'une rivière, à la fin, arrivèrent et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou, se précipita, revint sur l'eau, puis échappa, car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge, lui, le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant. L'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord que l'âne, succombant, ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut ? Il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point.
Ben oui, on le comprend, Michel Pastoureau, l'âne des moralistes n'est pas l'âne des naturalistes. La Fontaine n'en avait pas vu beaucoup, sans doute. Et c'est pourquoi, au fond, votre livre dont on parle, L'âne, une histoire culturelle, paru cette année aux éditions du Seuil, eh ben, son vrai héros, c'est votre ami Buffon. C'est lui qui donne toutes ces lettres de noblesse, simplement par la connaissance, en décrivant l'espèce et en le disant combien l'âne est un âne et pas seulement un cheval dégénéré.
Oui, le chapitre sur l'âne dans l'histoire naturelle des animaux, c'est le deuxième chapitre après celui du cheval. Buffon est un grand admirateur du cheval, mais au début du chapitre de l'âne, il invite à ne pas confondre les deux animaux et à ne pas considérer l'âne comme un cheval dégénéré, un cheval au rabais, et il a cette phrase magnifique, l'âne est un âne. Ça me plaît beaucoup, en effet Buffon est mon ami parce que je l'utilise beaucoup, mais pour moi il dégage beaucoup de sympathie, et il a une formule que j'aime énormément, lui-même dit « mon ami Pline », parce qu'il cite beaucoup l'histoire naturelle de Pline. Ce sont deux auteurs que je fréquente assidûment depuis plus d'un demi-siècle, et qui ont toute ma sympathie, bien qu'ils soient souvent critiqués. Pline est souvent mal traduit parce que c'est un auteur difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et Buffon était un peu odieux à ses contemporains, paraît-il, était très très hautain et vaniteux. Ça ne se sent pas trop dans l'histoire naturelle.
On ne fait pas attention que l'âne serait par lui-même et pour nous le premier, le plus beau, le mieux fait, le plus distingué des animaux, si dans le monde il n'y avait point de cheval. Il est le second, au lieu d'être le premier. Et par cela, seul, il semble n'être plus rien. C'est la comparaison qui le dégrade. On le regarde, on le juge, non pas en lui-même, mais relativement au cheval. On oublie qu'il est âne et qu'il a toutes les qualités de sa nature, tous les dons attachés à son espèce. Et on ne pense qu'à la figure et aux qualités du cheval qui lui manquent et qu'il ne doit pas avoir. Ça, c'est Buffon. Alors, ce qui est magnifique aussi dans votre livre, c'est que vous rendez grâce, effectivement, à cette humanité d'observation. Et puis, vous faites voir l'illustration des histoires naturelles de Buffon. Et là, l'illustrateur, il a vraiment rien compris, parce qu'il donne à voir l'inverse, c'est-à-dire un âne et un cheval, et l'un est l'image appauvrie de l'autre.
Voilà, il n'a pas lu le texte, ou l'éditeur a repris des gravures plus anciennes, comme c'est souvent le cas dans les milieux de l'édition. En tout cas, on voit en effet un âne et un cheval sur la même planche, et à cette proximité, bien sûr, l'âne est perdant. Il a vraiment l'air d'un cheval au rabais, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que dit Buffon. Mais Buffon, c'est quand même la grande plume du siècle, bien sûr, et un auteur qui donne lieu à toutes sortes de sous-produits, on dirait nous aujourd'hui, le petit Buffon illustré, le petit Buffon des écoles, etc. Donc, son discours quand même porte et porte très loin et très longtemps. Et ce que Buffon nous dit de l'âne, c'est vraiment un tournant. Il est l'avocat qui défend cet animal. Et à partir de là, d'autres vont lui emboîter le pas. La sensibilité romantique va se mettre en marche. Et l'âne du 19e siècle n'est plus du tout l'âne méprisé, maltraité des siècles précédents.
Et c'est aussi, cela devient l'animal des enfants.
Oui, alors vers la fin du siècle, les rapports entre l'âne et l'enfant ne cessent de se développer, à la fois dans des histoires, par exemple le cadichon de la comtesse de Ségur, nous sommes vers 1860, et puis même dans la réalité, dans les jardins publics, les promenades à dos d'âne en milieu urbain, à partir des années 1870-80, se mettent en place. Et moi-même, enfant, je suis monté sur des ânes au jardin du Luxembourg à Paris.
De toute façon, vous dites quelque part que vous êtes un enfant du jardin du Luxembourg.
Oui, c'est vrai. Ma grand-mère habitait tout près et deux fois par semaine, petit garçon, j'allais au jardin du Luxembourg et j'ai gardé un amour immodéré pour ce jardin qui, pour moi, est une sorte de centre du monde. Mais je sais que je ne suis pas le seul.
Votre père, d'ailleurs, Henri, était un peintre et un écrivain, ami des surréalistes.
Oui, et c'est grâce à lui que j'ai fréquenté tout jeune des ateliers d'artistes. Il avait beaucoup d'amis peintres, certains étaient connus, Quirico par exemple, Tanguy, d'autres l'étaient beaucoup moins. Mais je pense que mon attirance pour les couleurs est venue de cette fréquentation très précoce des ateliers d'artistes et d'avoir joué avec des vieux tubes de peinture, des baquets ou des pigments flottés, etc.
Alors vous avez fait de l'âne au jardin du Luxembourg, mais votre premier âne littéraire, vous en souvenez, c'est peut-être pas quand même l'âne cadichon de la comtesse de Ségur, dans la bibliothèque rose de Louis Hachette.
Eh bien, dans mes livres pour enfants, ce sont des documents d'histoire pour l'historien. Il y a tout un bestiaire qui évolue. Il y avait beaucoup d'ours encore, il y avait déjà pas mal de cochons, un certain nombre de lapins, mais j'ai pas souvenir d'avoir eu des ânes. Peut-être dans une version abrégée pour enfants ou adolescents de Don Quichotte avec l'âne de Sancho Panza, alors que le cheval de Don Quichotte a un nom, Rocinante. L'âne de Sancho n'a pas de nom propre, c'est l'âne, tout simplement.
Et l'âne de Sancho Panza est ambivalent. Il est paresseux, mais il peut être aussi futé, alors que le cheval, Rocinante, lui...
Il est à l'image de son maître, où il a un certain bon sens, un bon sens paysan, que Sancho a parfois, et que Don Quichotte n'a jamais.
Bon, mais vous avez sans doute, enfant, Michel Pastoureau, vu ce film, écoutez.
Keep her moving. Lively there now. We haven't got all night.
Where'd all the donkeys come from?
Come on. Let's have another.
And what's your name?
Okay, you'll do. In you go. You horse will bring a nice price.
All right, next. And what might your name be?
Alexander.
So you can talk.
Yes, sir. I want to go home to my mama.
Take him back. He can still talk.
Please, I don't want to be a donkey. Let me out of here.
Walt Disney, Pinocchio, 1940.
Pour l'historien des animaux, Pinocchio est un texte très riche. Il y a l'histoire du ventre de la baleine.
Oui.
Pinocchio et Geppetto passent un certain moment. Et puis, il y a l'épisode où Pinocchio est changé en âne. Pinocchio n'est pas un petit garçon très sympathique. Hein. Il fait beaucoup de bêtises, bien sûr, mais parfois, il est rancunier ou il est maladroit. Il est menteur, il est voleur. Donc, pour un enfant, c'est plus réjouissant que un héros de livre qui serait absolument parfait et donc, par là même, tout à fait ennuyeux.
Ça, c'est intéressant aussi, Michel Pastoureau, c'est cette question, au fond, on voit bien, vous êtes attiré vers les problèmes. Vous êtes un historien des problèmes. Et au fond, dès qu'il y a, comment dire, une identification peu assurée ou un symbole chancelant, c'est ça qui vous intéresse, au fond.
Oui, c'est ça qui m'intéresse. On dit que la recherche est la rencontre d'une problématique et d'une documentation. Pour moi, toujours priorité à la problématique, bien sûr. Enquêter, préparer le terrain pour mes successeurs, ne pas répondre à toutes les questions. Bien sûr, faut être lucide, on ne peut pas tout dire. Et nos suivants auront davantage de questionnements et de réponses que nous. Et ce que nous racontons sera nuancé, complété. Il faut s'en réjouir. Nous formons une chaîne, nous autres historiens, et je suis content d'en faire partie.
Par exemple, à la fin de votre livre, vous posez la question aussi de l'emblématique politique. Aux États-Unis, l'âne est démocrate et l'éléphant républicain. Et vous écrivez, on ne sait pas au fond d'où vient cet emblème. Au demeurant, peu importe, ne pas connaître les origines d'un emblème donne à celui-ci une force symbolique qu'il n'aurait pas si nous connaissions tout de sa date d'apparition, de son inventeur, des raisons de son choix et de ses significations. Mieux vaut donc ne pas savoir. Oui. Mieux vaut donc ne pas savoir, d'une certaine manière, on en revient à cet âne comme symbole d'une connaissance qui sait se moquer des savants.
Oui, je crois qu'il vaut mieux ne pas savoir pour laisser du travail à l'historien et à ses successeurs. Et puis la force symbolique de l'animal ou de l'emblème ou du drapeau, par exemple, est beaucoup plus grande si on ne sait pas tout, si on sait absolument qui a choisi tel drapeau à telle date pour dire ceci ou cela. La force du drapeau, bien sûr, s'appauvrit considérablement.
Donc l'historien, pour vous, Michel Pastoureau, c'est pas nécessairement celui qui explique tout, celui qui décrypte tout, c'est celui qui laisse un peu en suspens.
La porte ouverte, qui pose des questions, le maximum de questions, qui tente d'y répondre, mais qui accepte de ne pas pouvoir répondre à tout.
C'était Little Donkey par The Beverly Sisters, 1959. Bonjour Pierre Saint-Garavelou.
Bonjour.
Vous voulez évoquer aujourd'hui une célèbre controverse de l'histoire de l'art moderne.
Oui, je veux vous parler d'une toile réalisée par un jeune peintre génois, alors inconnu, Joachim Raphaël Boronali, une œuvre intitulée « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique », exposée au Salon des Indépendants de 1910. C'est un tableau abstrait qui représente un paysage crépusculaire où prédominent dans la partie supérieure les tons chauds et saturés, des jaunes solaires, des orangés flamboyants et des rouges incandescents qui contrastent avec les bleus et verts sombres en partie basse. L'interpénétration des couleurs et la superposition des formes troublent par leur instabilité, qui suggère le mouvement continu d'un monde en transformation. La matière est très présente, la touche large, visible, parfois brute, avec des traces de brosse affirmées. Il semble que la réflexivité est à son comble. La peinture ne cherche plus à dissimuler ses conditions de production, ni à représenter le réel. Nous sommes en 1910, longtemps considéré comme la naissance de l'abstraction avec son pionnier officiel Vassili Kandinsky, auteur la même année de sa première aquarelle abstraite, qu'il a sans doute antidaté pour assurer sa place dans l'histoire de l'art. Mais en 1910 à Paris, tout le monde ignore cet artiste étranger, c'est le soleil s'endormi sur l'Adriatique qui fait sensation.
Et cette œuvre est accompagnée d'un texte qui est diffusé dans les journaux, je crois.
Oui, ce peintre italien publie au même moment le manifeste de son nouveau courant artistique, l'excessivisme. « Hola, grands peintres excessifs, écrit-il, mes frères, hola, pinceaux sublimes et rénovateurs, brisons les ancestrales palettes et posons les grands principes de la peinture de demain. Sa formule est l'excessivisme, l'excès en tout est un défaut. » Dit un âne, tout au contraire, nous proclamons que l'excès en tout est une force, la seule force, ravageons les musées absurdes, piétinons les routines infâmes, vive l'écarlate, la pourpre, les gemmes coruscantes, tous ces tons qui tourbillonnent et se superposent, reflet véritable du sublime prisme solaire, vive l'excès, tout notre sang à flot pour recolorer les aurores malades. Super. Réchauffons l'art dans l'étreinte de magnifique. Nos bras fumants. On retrouve Patrick Boucheron dans ce texte, le style provoquant et les codes rhétoriques des avant-gardes du début du siècle. C'est un véritable acte de guerre esthétique qui propose d'inventer un art nouveau en faisant table rase du passé, de ses musées, de ses académies.
On vous écouterait pendant des heures, Pierre Saint-Carvelou, mais la question qui se pose et qui jette un peu un doute dans ce studio, c'est quel rapport avec ce qu'on raconte depuis une
Eh bien, parce que, comme nous le rappelle Michel Pastoureau dans son livre, c'est un âne qui a peint ce tableau. Il s'agit en effet d'un canular orchestré par le jeune écrivain Roland Dorgelès, qui révèle, constat d'huissier et photographie à l'appui, que l'artiste est en fait une bourrique, dénommée Lolo, appartenant au patron du Lapin Agile, un cabaret de Montmartre. Roland Dorgelès a accroché un pinceau à la queue de l'âne pour moquer les avant-gardes, comme les fauves et les futuristes, et avant eux les impressionnistes, en montrant que l'œuvre de l'animal, brossée à grands coups de queue, n'est pas déplacée parmi les tableaux des artistes indépendants. Cette supercherie fait rapidement des émules à l'étranger. En Russie, par exemple, les défenseurs de l'académisme utilisent dès lors l'expression « peint avec une queue d'âne » pour ridiculiser les œuvres modernes. À l'inverse, en 1912, les artistes néo-primitivistes Michel Larionov et Natalia Goncharova intitulent « La queue d'âne » leur exposition à l'école des Beaux-Arts de Moscou, l'animal symbolisant dans leur esprit le retour à l'art paysan.
Mais alors l'âne Lolo, pour y revenir, c'est bien l'auteur de ce tableau ?
Eh bien, c'est toute la question de l'animal artiste,
étudiée
notamment par la chercheuse Emmanuelle Puy-de-Bas. Dans ce cas précis, l'âne n'est sans doute que l'instrument de l'auteur véritable du tableau, Roland Dorgelès, qui lui-même anticipe à son insu les expérimentations de l'art informel, du tachisme, de l'art brut, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale feront prévaloir le geste et l'improvisation. Quelles que soient les qualités des œuvres produites, les animaux qui tiennent le pinceau ne sont toujours pas considérés aujourd'hui comme auteurs, au sens intellectuel ou légal du terme. Ainsi, dans les années 1950, on reconnaît au célèbre chimpanzé Congo une réelle démarche créative, notamment à travers le choix des couleurs et des formes, mais l'humain reste l'auteur du concept, celui qui fournit le cadre, le matériel et choisit d'exposer son œuvre. Cela n'empêche pas certaines toiles réalisées par des animaux d'être parfois vendues très cher. Ainsi, récemment, la truie sud-africaine, dénommée par le mot valise Pig Casso, formée par le pig en cochon en anglais, est devenue une star de l'art contemporain. contemporain. L'activiste Johan Lefson, qui a sauvé cet animal de l'abattoir, lui a appris à peindre avec son groin. Elle a réalisé des centaines d'œuvres avant sa disparition en mars 2024. Et on sait bien qu'aujourd'hui, Nénette, célèbre orang-outan du Jardin des Plantes à Paris, qui est elle originaire de Bornéo, âgée de 58 ans, continue à peindre délicatement avec ses doigts et sa bouche plusieurs fois par semaine, fascinant par là même les chercheurs qui veulent élucider le mystère des origines de l'art.
Les couleurs dans la peinture des animaux artistes, bah finalement, ça serait, c'est un livre pour vous, ça, Michel Pastoureau, tous vos thèmes, ils sont...
Tout à fait, j'unirai mes deux terrains de recherche, l'histoire des animaux d'un côté, l'histoire des couleurs de l'autre, qui se rejoignent souvent, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Alors Lolo ?
Mais alors Lolo, il y a une suite qui est très intéressante, qu'il ne faut pas dissimuler. Après la Première Guerre mondiale, Roland Dorgelès a écrit un livre qui a connu un certain succès, Les Croix de Bois, racontant sa guerre, au fond. Les jurés du prix Goncourt en 1919 s'apprêtaient à le couronner et lui donner le prix, quand l'un des membres a fait remarquer « Mais ce Dorgelès, n'est-ce pas celui qui s'est moqué de nos collègues en milieu artistique en 1910 ? Est-ce que c'est convenable de lui donner le prix ?» On réfléchit, on revote, et la réponse est non, et on donne le prix à celui qui avait été classé deuxième. Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, reçoit le prix Goncourt en 1919, ce qui me fait dire que la seule fois où les jurés du Goncourt ont couronné, non pas un grand livre, mais un chef-d'œuvre absolu, c'est grâce à La queue d'un âne.
Ah oh bah quand même, La maison vide de Laurent Mauvigné, c'est un chef-d'œuvre absolu, hein, on pourrait dire, hein, aujourd'hui. Mais bon, Pierre Saint-Garavelou, vous avez lu le livre de Michel Pastoureau, L'âne, qui fait ce choix de ne conserver, au fond, comme attention de l'historien, que son terrain d'enquête depuis bien longtemps, l'Europe. Des ânes en Asie, en Afrique, on pourrait dire bien des choses, en somme.
Oui, bien sûr, surtout qu'en fait, la plupart des ânes aujourd'hui se trouvent en dehors de l'Occident. Ils se trouvent en Asie et en Afrique. Par exemple, le pays qui possède la population la plus importante d'ânes, c'est l'Éthiopie, où plus d'une famille sur deux possède un âne. Ensuite, il y a plus de 10 millions d'ânes en Éthiopie, presque 10 millions au Soudan, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le pays qui possédait le plus d'ânes jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est la Chine. Mmh. Et que l'âne est devenu un symbole, au fond, de la mondialisation, de l'exploitation des animaux, et aussi de l'extractivisme chinois à l'échelle globale, puisque, en fait, on voit combien, ces dernières décennies, la population des ânes dans le monde, et notamment en Afrique, mais aussi au Pakistan, diminue à grande vitesse en raison de la consommation. Alors, en ce moment, les Chinois consomment plus de 5 millions d'ânes par an parce qu'ils sont très friands de la peau d'âne, et plus précisément du collagène de la peau d'âne, de la gélatine, qui est très utile dans la médecine traditionnelle chinoise, à la fois pour produire toute une série de médicaments qui soignent de divers maux, mais aussi des produits cosmétiques.
Ah oui, c'est ce qu'on appelle le coup de pied de l'âne. Hein. Pierre Saint-Garavelou vous dit, on peut aussi faire une histoire mondiale de l'âne, finalement.
Voilà, moi je me limite aux sociétés européennes parce que quand je travaille sur l'histoire des animaux ou l'histoire des couleurs, derrière, bien sûr, ce sont des problèmes de société qui m'intéressent. Et l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète. Donc les sociétés de l'Europe, c'est déjà un gros morceau, surtout dans la longue durée. Mais bien sûr, je lis les travaux des autres quand ils existent, ce qui n'est pas toujours fréquent. Et pour l'âne, c'est vrai que les confins de l'Éthiopie et de la Somalie, c'est le lieu d'origine de la domestication, de plus ancienne domestication. Ça commence là, vers le quatrième millénaire avant notre ère.
Votre prochain livre sur les animaux, puisque les couleurs, c'est fini.
Il me reste à traiter du gris, du violet que je n'aime pas, de l'oranger, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mon livre jaune et dans mon livre rouge, et surtout du brun, qui est la couleur la plus présente dans la vie quotidienne et qui laisse très peu de traces dans les documents.
Mais alors là, pour votre prochain animal, vous allez retrouver un vieux compagnon, votre plus cher et ancien compagnon peut-être, le cochon.
Le cochon, qui est un animal qui lui aussi a toute ma sympathie. J'ai écrit pas mal d'articles sur l'histoire et la symbolique du cochon. Je voudrais tout reprendre dans cette collection aux éditions du Seuil.
I've seen wagons. Oh.
C'était Allons y voir. Merci à vous deux, Michel Pastoureau et Pierre Saint-Garavellou. Les références de vos livres sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Ludovic Auger et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
Let's go.